Entre la haine et la cupidité, le cœur du comte de Valois fut un instant déchiré. « À combien s'élèvent ces annates ? » demanda-t-il. « De 10 ou 12 000 livres, mon oncle, car il y faut comprendre les bénéfices qui n'ont pas été perçus dans les derniers temps de mon père et pendant tout le règne de Louis. Pour Valois, toujours endetté, ces 10 ou 12 000 livres à recevoir dans l'année étaient miraculeusement bienvenus. « Vous êtes un bon neveu qui comprenez mes besoins, » répondit-il. « Je m'en vais enjoindre à Robert de s'accommoder avec vous et lui remontrer que s'il n'y consent, je lui ôterai mon soutien. » Philippe rentra par petites étapes, réglant différentes affaires en chemin. Il fit un dernier arrêt à Vincennes pour porter à Clémence la bénédiction du nouveau pape. « Je suis heureuse, dit la reine, que notre ami Duèze ait pris le nom de Jean, car c'est celui aussi que j'ai choisi pour mon enfant, par ce vœu que je fis durant la tempête sur la nef qui m'amena en France. » Elle semblait toujours étrangère aux problèmes du pouvoir, et uniquement occupée de ses souvenirs conjugaux ou de ses soucis de maternité. Le séjour de Vincennes convenait à sa santé. Elle avait repris beau visage, et connaissait dans l'embonpoint du 7e mois ce répit que l'on voit parfois vers la fin des grossesses difficiles. « Jean n'est guère un nom de roi pour la France, » dit le régent. « Nous n'avons jamais eu de Jean. »« Mon frère, je vous dis que c'est un serment que j'ai fait. »« Alors nous le respecterons. Si donc vous avez un mal, il s'appellera Jean Ier. » Au palais de la cité, Philippe trouva sa femme parfaitement heureuse, pouponnant le petit Louis-Philippe, qui criait de toute la force de ses 8 semaines. Mais la comtesse Mao, aussitôt qu'avertie du retour de son gendre, arriva de l'hôtel d'Artois, manches retroussées, les joues en feu, l'œil furieux. « Ah ! On me trahit bien, mon fils, dès que vous n'êtes pas là ! Savez-vous ce qu'est allé manœuvrer en Artois votre gueule gaucher ?»« Gaucher est connétable, ma mère. Et voici peu, vous ne le trouviez pas gueux du tout. Que vous a-t-il donc fait ?»« Il m'a donné tort !» cria Mao. Il m'a condamné en tout, vos envoyés s'entendent comme compères de foire avec mes vassaux. Ils ont pris sur eux de déclarer que je ne rentrerai pas en Artois. Vous entendez bien m'interdire dans mon comté. Avant que ne soit scellée cette mauvaise paix que j'ai refusée à Louis l'autre décembre, et ils veulent en plus que je restitue je ne sais quelle taille que d'après eux j'aurais indûment perçu.
Tout ceci me paraît équitable. Mes envoyés ont suivi bien fidèlement mes ordres, répondit calmement Philippe. La surprise laissa Mao un instant interdite, la bouche entr'ouverte, les yeux arrondis. Puis elle reprit, criant plus fort.
« Équitable ! De piller mes châteaux, de prendre mes sergents, de ravager mes moissons ! Et ce sont vos ordres donc de soutenir mes ennemis ? Ah, vos ordres, voilà la belle façon dont vous me payez de tout ce que j'ai fait pour vous !»
Une grosse veine violette se gonflait sur son front. « Je ne vois pas ma mère, hormis de m'avoir donné votre fille, » répliqua Philippe. « Que vous ayez tant fait pour moi qu'il me faille léser mes sujets et compromettre à votre profit toute la paix du royaume. » Entre la prudence et l'emportement, Mao hésita une seconde. Mais le mot employé par son gendre, « mes sujets », qui était parole de roi, la piqua comme un aiguillon. Et le secret qu'elle gardait si savamment depuis 10 semaines fut rompu sur ce coup de colère.
« Et d'avoir expédié ton frère outre !» dit-elle en avançant sur lui. « N'est-ce donc rien ?»
Philippe n'eut pas de sursaut ni d'exclamation. Sa réaction fut d'aller clore les portes. Il verrouilla les serrures, ôta les clés et les glissa dans sa ceinture. Il n'aimait combattre qu'en arène fermée. Mao fut prise de frayeur, et plus encore quand elle aperçut le visage qu'il avait en revenant vers elle. «